Cet été, je ferai un jardin. Si tu veux rester avec moi encore quelques mois, il sera petit. C'est certain, j'en prendrai bien soin. J'en prendrai bien soin.
Belle chanson de notre Clémence nationale. Je ferais un jardin. Mon... Alors là, on va se mettre les deux mains dans la terre. Si vous avez les deux mains sur le volant, imaginez que c'est de la bonne terre, là, où on peut cultiver des fleurs comestibles, tiens. C'est une grande tendance agricole, l'agriculture. Et c'est vrai que ça calme les mœurs. Alors, ça va nous, hein, ça va nous permettre de faire retomber le... Ouf, après notre discussion assez vivante. J'aime ça, moi, des discussions comme ça. Aimez-vous ça? Ça nous réveille. Pour ceux qui dormaient, la discussion qu'on vient d'avoir depuis une heure, ça nous a réveillés. Et ça nous donne envie d'aller jouer dehors, oui, parce que il fait beau. Il paraît qu'il va faire même 18 en fin de semaine. Un petit peu de pluie. Bon, faut bien laver le chemin. C'est vrai qu'avec l'arrivée du beau temps, on a envie d'aller jouer dans la terre. Et il y a un engouement pour le jardinage qui s'est accru au Québec depuis quelques années, vous l'avez sans doute remarqué. Il y a même un Québécois sur trois qui pratique cette activité. Ça veut aussi dire que c'est du travail, hein, c'est de la persévérance, on n'a pas tous le pouce vert. Ça veut dire des fois, à la fin de la journée, on a quelques courbatures, mais on a aussi la satisfaction du travail accompli quand on regarde notre beau jardin bien vert. À quoi est due cette popularité de l'horticulture, du jardinage? Ben, le fait qu'on vieillisse, chers amis, on vieillit, on veut se recentrer par rapport à la terre, mère, on a envie de prendre du temps un peu pour soi. Il y a un véritable bienfait, presque philosophique, à faire son jardin. On est face à soi-même, on peut laisser aller son cerveau, on peut le faire avec des amis aussi, on peut le faire avec ses enfants, sa famille, bref. Il y a aussi le fait qu'on est moins sorteux. On est moins sorteux. Ça coûte tellement cher de prendre son auto, on se dit, ben je vais me faire mon jardin. Et même si ceux qui sont en ville, Balconville aujourd'hui ne rime pas avec sécheresse, au contraire, vous pouvez vous faire des petits carrés de jardin, vous pouvez au moins avoir un petit peu d'herbe fine, vous pouvez avoir même un plant de tomate, pourquoi pas. On parle de plus en plus d'agriculture urbaine. Bref, on va en parler avec deux spécialistes de la question de cette mode du jardinage, et c'est la question qu'on vous pose ce matin. Est-ce que vous êtes accro, vous, à l'horticulture? Êtes-vous devenu des gens là, qui essaient de développer leur pouce vert. Ronald Leduc, horticulteur que vous connaissez bien, on le reconnaît facilement.
Salut Isabelle.
Bonjour, merci beaucoup d'être là, Ronald. Wendel Roland est un designer en système écologique, c'est un permaculteur. Merci beaucoup d'être là, Wendel. Je voulais à tout prix qu'on parle de permaculture, puisque comme on parle de tendance en horticulture, ça c'est une des nouvelles tendances très mode, la permaculture. Racontez-nous ce que c'est en gros.
La permaculture, en fait, si on veut vraiment définir ce que c'est, il faut commencer par dire ce que ce n'est pas. Ce n'est pas une méthode de jardinage. On dit souvent que bon, un jardin en permaculture, etc. La permaculture, c'est plutôt une manière de voir le monde et de le créer. Donc, on crée notre monde en s'inspirant de la nature. C'est une science de design qui s'inspire de la nature par l'observation et qui suit une éthique. Une éthique qui est quand même assez simple. Prendre soin de la terre, prendre soin des gens et créer l'abondance pour la redistribuer. Et c'est sûr que on considère bien sûr que l'agriculture, le jardin est très, très intéressant, très, très important dans ce contexte-là. Mais ça veut aussi dire
une culture. Mais ça déborde le cadre du jardin, finalement.
Exactement. Ça veut aussi dire une culture permanente qui a besoin d'une agriculture permanente pour exister. Et ça se reflète sur les maisons, sur la manière dont on crée notre société, la manière dont on cherche à créer une diversité, mais tout en étant relationnel. Donc, on veut que les gens créent une diversité dans leur jardin, créent une diversité dans leur vie, une diversité d'idées aussi, mais qu'il y ait des relations qui soient faites, des liens qui soient faits, que ce soit pas, qu'on ne voit pas seulement l'arbre, qu'on voit aussi la forêt.
Ouais,
et
ouais,
qu'on
ouais.
voit les éléments entre les deux échelles.
C'est un nouveau phénomène, la permaculture. C'est un principe, en plus, dans le jardin, ça veut dire qu'on n'utilise pas d'engrais. On va même utiliser des mauvaises herbes dans la culture.
L'idée est que, dans le fond, il n'y a pas de mauvaises herbes. Il y a juste des plantes qui poussent au mauvais endroit. Souvent,
Dieu, vous parlez comme Ronald Leduc.
Souvent, je raconte que il y a quelques années, j'ai eu des mauvaises herbes à pu finir, mais c'était des bêtes à cardes. Parce
ouais.
que mes bêtes à cardes ont monté en graines, puis ils sont retrouvés partout dans le jardin. Et quand on regarde les mauvaises herbes, dans le fond, c'est comme une gale. C'est comme l'humain quand on se fait mal. Il y a une gale qui se forme. Et cette gale-là, c'est pour nous protéger. Quand on enlève la surface de la terre et qu'on laisse le sol à nu, la terre n'est pas heureuse. C'est une gale. C'est une plaie. Et pour régler cette problématique-là, cette plaie, la nature a une solution très simple, faire venir des plantes qui sont extrêmement efficaces à coloniser l'espace. Et donc, en permaculture, on a plusieurs techniques qui pallient à ça. On a l'utilisation de paillis, donc l'installation de paillis, qui sont des paillis qui sont faciles à gérer, non pas des paillis de pin ou des paillis de cèdre qui sont très longs à disparaître, qui sont plus esthétiques. Nous, on a des paillis comme
ça
paille.
Dépend si on aime ça. Là.
Moi, oui, c'est ça. Les paillis rouges, mais... personnellement, je trouve que c'est
là, la mode est au noir, au paillis noir. Là. Tout le monde met du noir partout.
Mais on veut que le sol le digère, nous, notre paillis. On veut nourrir la terre pour que la terre puisse nourrir les plantes. Donc, on suit un processus simple de la nature. Dans une forêt, on met pas de fertilisant. Dans une forêt, on retourne pas la terre non plus. Donc, dans nos jardins, il y a pas une nécessité de retourner la terre.
Ronald, vous entendez Wayne Roland nous parler de permaculture. Ça ressemble à ce que vous pratiquez, vous, depuis des années, dans le fond, cette espèce de respect de la terre. C'est tout à fait dans la tendance aussi. On parle de cette mode là, du jardinage, de l'horticulture. Oui. Vous expliquez ça comment? Vous, c'est justement un besoin de retoucher à la terre?
Ben écoute, moi, ce qu'il dit, c'est la philosophie même de l'horticulture. Tu sais, quelqu'un qui veut réussir en horticulture, c'est de comprendre comment la nature fonctionne. Le but, c'est de trouver le milieu naturel d'une plante et le recréer, tu sais, respecter son milieu naturel. C'est élémentaire. Quelqu'un qui veut jouer avec ça, il faut qu'il comprenne ça. C'est sûr que je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde passionné d'horticulture qui cherche à détruire la nature. Tu sais, je pense que le monde va essayer de... C'est le meilleur professeur, ça a toujours été la nature.
Mais des fois, on ne sait pas. On pêche par ignorance souvent parce qu'on ne sait pas trop comment les choses ont poussé. On ne sait plus aujourd'hui, il y a bien des enfants, il y a même des adultes qui ne savent pas comment poussent les asperges ou les artichauts, les endives, de la salade. Bon, tout le monde s'imagine que ça pousse direct dans le sol, mais les haricots verts ou d'autres plantes qu'on est supposé connaître puisqu'on les mange. On s'en nourrit, puis on est comme déconnecté.
Ouais, je sais, ben c'est ça, on s'éloigne un peu de... On est moins grandés que nos grands-parents étaient, là, tu sais, je veux dire, puis encore moins que les Indiens étaient, là, tu sais, je veux dire, eux autres étaient connectés directement, même il y a sûrement encore des endroits dans le monde où les Indiens sont directement en symbiose avec la nature. Nous autres, mettons qu'il y a le gros chalet dans le nord, il y a la bague en or, puis il y a le gros char qui vient couper entre les deux, là. Fait que, à ce moment-là, le monde a besoin de se regrandir, tu sais, mais ça, je pense qu'on n'aura pas le choix à un moment donné d'en arriver là, parce que on peut pas toujours tirer l'élastique sans le faire péter. Le
problème qu'on va avoir, c'est qu'à force d'avoir pas pensé que l'agriculture était... Puis là, on parle d'agriculture maintenant, là, mais l'horticulture et l'agriculture, la différence... Bon, l'horticulture, comment vous décrivez ça?
Ben, l'horticulture, c'est l'art de faire pousser des plantes, voilà. En fait. Là, tu sais, que ce soit une patate, une orchidée ou un chêne, ça reste le même raisonnement. Ça reste de trouver son point G et de le reproduire. Tu sais, c'est le but. Puis n'importe quel bon horticulteur, c'est quelqu'un qui a assez de feeling puis qui a assez d'humilité pour se dire, ben écoute, j'ai pas la connaissance là-dessus, je vais lire, je vais poser des questions, je vais trouver, je vais aller dans la nature, je vais regarder un chêne où ça pousse dans la nature, un chêne rouge, ça pousse pas de la même manière qu'un chêne de marais. Le chêne rouge va pousser dans des milieux bien drainés sur le dessus des montagnes. Donc, quand tu te promènes dans le bois, puis tu vois, dans un milieu bien drainé, des chênes rouges, quand tu arrives dans ton jardin, t'es plantes pas dans la boîte, tu sais, parce que tu sais que c'est ça qu'ils aiment. Fait que tu te bats pas avec la nature. T'essayes pas de contrôler la nature. T'essayes juste d'être en symbiose avec. Mais ça, c'est le principe de la bonne plante à la bonne place. C'est juste une petite phrase qui demande énormément de...
Parce qu'on a fait les choses tellement autrement quand on... Puis là, on le voit beaucoup dans les banlieues. C'est que finalement, on rase tout. Puis on enlève tout ce qu'il y a de plantes et d'horticulture, finalement. On fait table rase, on met du ciment, on coule du béton, puis après ça, on va replanter des trucs. Écoute, il me semble qu'on le prend à l'envers.
C'est
plutôt
ça,
que de profiter de ce qu'il y a et de construire là-dedans.
Plus tu t'éloignes,
on s'insère pas dans l'environnement, finalement.
Plus tu t'éloignes du milieu naturel d'une plante, plus ça va demander de l'entretien, tu sais. Tu vas planter une fougère dans un sous-bois, je veux dire, plante-la, arrose-la, allaite-la la première année, elle va se raciner, après ça, tu peux partir pendant 6 ans, y a pas de problème. Mais un panier suspendu, planté dans de la mousse de tourbe, accroché après ta galerie, si tu l'arroses pas 2 fois par jour, tu pars en vacances 2 semaines au mois de juillet, il est off, là. Parce que t'es trop loin de son milieu, là.
Ouais. When?
Et exactement. Donc, dans le fond, ce qui est l'avantage, lorsque M. Leduc parlait de l'horticulture, que c'est une, dans le fond, c'est un peu intuitif. Et l'avantage que l'on a lorsqu'on considère une science comme la permaculture, c'est que ça nous donne un framework, une structure qui nous permet d'englober ça et que ça soit pas aussi ésotérique. Parce que ça semble ésotérique pour bien des gens, mais quand on comprend les principes qui sont en arrière, les principes de la nature, ben on voit que dans le fond, c'est tout naturel. On est une partie de la nature. Donc, de le comprendre à travers des principes. Il y a de nombreux principes qui ont été énoncés en permaculture, comme observer, interagir, stocker l'énergie pendant qu'il est disponible. Quel est le meilleur contenant pour mettre de l'énergie du soleil? C'est une plante. Mm-hmm. Donc, pendant qu'il fait soleil, pendant qu'il fait beau, on accumule le soleil dans la plante, on génère une récolte qu'on peut conserver à long terme. Donc, c'est tous des principes, quand on regarde la nature, quand on s'en inspire, c'est un bon début. Et ensuite, comme M. Le Duc disait, ben on pousse un peu plus loin, on fait de la lecture, on parle avec des gens qui ont fait des expériences. En tant que personne unique, autant on peut faire des choses intéressantes, mais on ne connaît pas tout. Donc, c'est important l'aspect communautaire et l'aspect collectif. Il y a un gros mouvement, on parlait de tendance tantôt, c'est le jardinage collectif. Je suis président du regroupement des jardins collectifs et on a une bonne trentaine de membres qui jardinent ensemble, qui partagent leur savoir, qui mettent ensemble les choses qu'ils font, qui sont humaines.
Et ça se trouve où, ces jardins-là? Est-ce que ça inclut les jardins communautaires en ville, par exemple?
Il y a certains jardins communautaires qui ont des parcelles collectives. Communautaires, on a le jardin communautaire qui est le jardin où est-ce que j'ai ma petite parcelle, et le jardin collectif qui est le jardin où la parcelle appartient à tout le monde.
Ah.
Et au jardin collectif de Saint-Jérôme, où je travaille, eh bien, on a un gros jardin collectif de 35 000 pieds carrés et on a quelques petites parcelles communautaires. Et le jardin collectif, on peut accueillir beaucoup plus de gens, puis on peut faire beaucoup plus de formations. C'est un environnement extraordinaire et on offre même des services d'hortithérapie, de thérapie par l'horticulture sur le site. Ouais. On sait très bien que la terre, c'est agréable, travailler avec la terre. On a découvert récemment qu'il y a des bactéries dans le sol qui, en contact avec la peau humaine, provoquent le relâchement d'endorphines.
Ah, ça fait du bien, ça fait un bien énorme. On est fatigué après une bonne journée d'horticulture, mais on est content.
Et en même temps, ça n'a pas à être difficile. Il y a des moyens de rendre ça simple. Comme je parlais un petit peu, la nature ne retourne pas la terre. Donc, on peut travailler avec des buttes qui sont permanentes. On peut travailler...
Bon, on va dire, justement, après la pause, on s'arrête ici. On va avoir vos conseils à tous les deux parce que vous avez assez joué dedans pour savoir comment bien s'occuper de nos jardins, comment être un bon citoyen horticole, finalement. Les gens qui veulent intervenir, bien sûr, nous dire si ils sont accros à cette mode du jardinage et de l'horticulture. C'est vraiment... Je pense qu'après la cuisine et l'alimentation qu'on redécouvre, on redécouvre les façons de s'alimenter, forcément, par la force des choses, ça passe par l'horticulture, parce que plus on se renseigne sur notre alimentation et plus on se rapproche de la terre, parce qu'on a envie de faire pousser soi-même ses propres légumes, on a envie d'alimenter nos propres fleurs, pourquoi pas d'ailleurs des fleurs comestibles, parce que oui, ça peut se manger aussi, ça agrémente très bien des repas. Bref, on va parler de tout ça après la pause, si vous voulez intervenir, 514-790-9850. Est-ce que vous êtes accro à cette mode du jardinage? Est-ce que c'est une mode, d'après vous, qui est là pour rester? On parle de plus en plus d'horticulture. On s'est pris vraiment de passion il y a quelques années pour l'alimentation et j'ai l'impression que c'est en voie de se passer la même chose avec le jardinage, avec l'entretien aussi de plus en plus écologique. On cherche des solutions pour un gazon plus vert. On veut améliorer nos plates-bandes. On veut mieux traiter nos arbres. On veut que nos arbustes soient sains. On nous a interdit, alors on est obligé de suivre la loi, de ne plus utiliser de pesticides. En même temps, les bébites qui, elles, n'ont pas perdu le lien avec la nature comme nous l'avons fait, c'est elles qui ont pris le contrôle, ça puis d'autres choses. Et finalement, on se retrouve aujourd'hui, on est dans cette mode qui est une véritable industrie. Si vous voulez des chiffres, je peux vous dire que entre les années 2000 et 2005, c'était là, un chiffre d'affaires de 150 millions qui est passé à 250 millions, bref, une hausse de 50%. Et il y a 40 000 personnes là, qui travaillent en haute saison dans les entreprises horticoles de production, les services horticoles, tout ça, c'est devenu vraiment une industrie extrêmement florissante, pour faire un jeu de mots facile. Et c'est vrai qu'on a envie d'y participer pour toutes sortes de raisons. On parlait d'hortithérapie, je trouve ça super intéressant. Je vous présente mes invités, Owen Roland est designer, il est surtout permaculteur. La permaculture est une nouvelle tendance. Ça remonte aux années 70, mais disons c'est que ça. Là, c'est plus vivant.
Disons qu'aux années 70, c'était une idée un peu farfelue. On a un peu mis ça avec les hippies dans le gros tas des idées qui marchaient pas, en principe, mais on a vu que ça marchait, puis qu'avec le temps, ben, ça a progressé. Et on s'aperçoit que notre manière de designer, on est tous des designers, hein, on crée à tous les jours.
Il y en a qui ont du talent, puis il y en a qui en ont moins. Là.
Exactement. Mais quand on design notre société, ben, ouais. Il faut se baser sur des choses solides, des affaires qui vont permettre la continuité, et pas juste la durabilité, parce que si je dis que mon couple est durable, c'est pas fort, tu sais, c'est ouais. Un peu poche. Mais si je dis que mon couple est régénératif et inspirant.
Et vivant.
Vivant.
Ouais.
Là, ça va loin.
Vivace.
C'est... Ouais.
C'est pour ça que j'aime bien Ronald Leduc, parce qu'il nous ramène tout le temps à la base, comme il dit, c'est-à-dire, c'est vrai qu'on peut faire ça hyper compliqué, Ronald, puis on peut faire ça très simple aussi.
C'est sûr qu'écoute, le principe de mon petit copain, c'est le principe de l'agriculture biologique, tu sais. Je
veux
dire, ça existe depuis les Amérindiens, tu sais. C'est élémentaire d'en arriver là un jour. Tu sais, c'est le but de tout horticulteur de devenir en symbiose vraiment avec la nature pour être capable de pas mettre d'engrais puis de pas mettre de pesticides.
Mais est-ce que
d'avoir
c'est
un sol
est-ce que c'est faisable parce qu'il y a plein de gens là qui nous écoutent puis qui disent que depuis qu'on a plus le droit justement d'utiliser des pesticides puis on est d'accord non. Parce que
okay.
Parce qu'on comprend tous que c'est pas bon. En même temps, on a des gazons qui ont pas d'allure, okay. On a des jardins qui ont pris le contrôle.
Bon. C'est que tu vois ça comme un orchestre, OK? T'as un jardin à faire, t'as un environnement dans lequel tu dois faire le jardin, puis il y a des guerriers qui sont capables d'aller jouer là, puis il y en a d'autres, c'est des petits caniches. Si t'es mal là, t'es mis dans le trouble, ils vont avoir besoin d'être un allaitement continuel, ils vont avoir besoin des pesticides parce que les prédateurs vont être plus forts qu'eux autres. Bon, là, c'est une logique. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que quand tu t'arrives avec ça, ça devient un peu de la psycho. Tu sais, si tu dis t'arrives au centre de jardin, puis tu pognes un buzz sur un arbuste en fleurs, puis tu dis moi, je vais l'avoir à côté de ma porte d'entrée. Puis là, mais ta porte d'entrée est juste pas sur le bon bord, elle est à l'ombre. Puis là, tu t'obstines à vouloir l'avoir là parce que tu trouves que ça flash à côté de ton char. Puis bon, tu sais, c'est comme là tu te mets dans le trouble. Mais ouais. Si tu, avec l'expérience, n'importe quelle personne qui joue dans la terre avec l'expérience va comprendre que la plante, elle a un avantage, c'est qu'elle veut vivre. En partant, elle veut vivre. Deuxièmement, elle va tout te donner des signaux pour te dire que si t'es sur la bonne coche ou si t'es pas sur la bonne coche. Une plante qui est heureuse, ça fait des nouvelles pousses. Une plante qui est pas heureuse, ça en fait très peu. Ou la nouvelle pousse se décolore, elle devient chlorosée. Ça veut dire qu'elle est pas bien, là. Il y a quelque chose qui marche pas, là. C'est un manque de bouffe. Il y a une plante que les feuilles sont plus petites, deviennent de plus en plus petites. C'est qu'elle manque de lumière. Elle t'envoie un fax, tu sais. Mm-hmm. Puis là, elle te dit, écoute, là, Ronald, là, décroche, là. Je suis pas bien, là. Peux-tu m'envoyer une autre place? Mais si tu dis non, ben, j'attends de la visite en fin de semaine, tu vas faire ton show, puis c'est moi qui chicale l'achat de site. Mais là, à ce moment-là, ouais. Là, tu vas finir à l'urgence. Là, mm-hmm. C'est juste ça, l'horticulture. Ça n'est simple à un moment donné quand tu démystifies ça, mais si tu veux te la compliquer puis rentrer dans toutes les affaires complexes, là, tu rentres en dessous de la terre, il y a 500 éléments en dessous là, qui font les symbioses entre les plantes. Là, si tu veux tout comprendre ça, faire pousser ton plant de tomate, OK, ça, je suis d'accord avec ça. Il y en a qui buzzent là-dessus à temps plein. Ça, je suis d'accord.
Mais c'est difficile.
C'est parce qu'à un moment
donné...
C'est
extrêmement difficile. Moi, j'ai un jardin. Enfin, j'essaye.
Le pouce vert, là, oui. C'est pas un don inné, ça. Il n'y a pas... Tu sais, ça n'existe pas, ça, le pouce vert. Le monde, là, c'est simplement que... Si t'as un peu de connaissances, tu vas aller jouer dans la terre, tu vas faire tes erreurs, tu vas apprendre. Si t'es pas trop endormi, tu vas comprendre que ça marche pas parce que la plante, elle, ça ment pas. Elle te le dit. T'es dans le champ, man. Fais quelque chose avec ça, là. Si tu t'obstines pis tu dis non, c'est moi le coq, c'est moi qui drive, tu vas rester. Là, à ce moment-là, tu t'en vas dans le dèche, là. Mais si tu dis, bon, ben là, je la change, je la mets un petit peu plus au soleil, je donne un petit peu plus d'eau, puis oups, paf, tout ça m'a parti, les pousses sortent. Là, à ce moment-là, tu viens de trouver.
Mais la gestion des insectes, par exemple, parce que moi, j'ai essayé de faire des jardins, puis le problème, c'est que finalement, on se retrouve avec des tomates qui sont piquées, vous essayez de faire pousser des piments ou même des salades qui sont mangées. Bon, on connaît tous que pour les chenilles, il faut mettre des coquilles d'œufs. On a, tout le monde sait ça. Ça marche pas, ça. En tout cas, moi, ça n'a pas marché fort.
Mais
est-ce qu'il y a des règles à suivre qui facilitent ça? Parce qu'après, c'est décourageant. Ça coûte cher, quand même.
Mais si tu me permets, lorsqu'on regarde un jardin et qu'on fait une belle ligne de tomates, là, on s'imagine que c'est comme une piste d'atterrissage. L'insecte, il voit une ligne de tomates ici, qui veut la tomate, puis il voit qu'il y a des tomates. Donc, il s'en va là. Il va trouver une tomate, il va passer d'un à l'autre, il va pondre ses œufs. Donc, c'est sûr que le fait de cultiver une seule plante au même endroit, beaucoup de plantes au même endroit, de la même famille ou du même type, c'est très nuisible. Une des choses très simples pour améliorer, vraiment simple, c'est de mettre de la diversité dans le jardin. Mm-hmm. Au lieu de mettre juste des rangs de tomates, ben mettez des fleurs.
Mm-hmm.
On parle souvent du basilic avec la tomate en compagnonnage. On parle de mettre des tagettes, des capucines, des fleurs qui sont comestibles.
Mm-hmm.
Donc, juste de mettre ça.
Ça éloigne, ça, certains
oui,
insectes?
À cause des odeurs. Mm-hmm. Les odeurs font de la confusion pour les insectes. Ils sont pas tout à fait... Ils vont par la couleur et par les odeurs en particulier. Donc, s'il y a pas juste la couleur typique de la feuille de tomate, le vert bien précis qu'ils recherchent, ben ils sont pas sûrs d'aller là. Ils vont... Évidemment, c'est pas 100%, sauf que ça aide déjà d'avoir une polyculture, c'est-à-dire un ensemble de plantes ensemble qui travaillent à générer un environnement qui est un peu moins facile pour les insectes. Ben ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup le jardin. Dans notre jardin de 35 000 pieds carrés, on a très peu de problèmes d'insectes.
Ah oui?
Et les insectes qu'on a, les problèmes qu'on a, ben on les traite à la main. On récolte des insectes, on les récolte sur les plantes, que ce soit des bébêtes à patates ou des fois les pucerons. On va les écraser. Puis ça demande de l'attention. Ça demande de la présence. Faut être conscient qu'un jardin, c'est un bébé. Ça demande une certaine attention. Tant que ça va être des annuelles, des plantes qui sont, dans le fond, faibles, ils ont été élevés pour être faibles. Tout ce qui est tomates, concombres, c'est faible. Ça a été élevé pour qu'on s'en occupe.
Mm-hmm.
Versus certains arbres, des arbustes, des plantes vivaces, qui, elles, sont beaucoup plus solides, beaucoup plus capables de s'en sortir.
Mm. Comment vous gérez ça, Ronald, vous, les insectes? Ils vous voient arriver, puis s'en vont?
Non, mais écoute, là... C'est sûr que, premièrement, j'ai pas le temps de tout écraser puis selon
tout. Mais oui, il y a ça.
Bon, mais le principe.
Ben, moi, ça me tente pas.
Mon raisonnement, c'est que c'est vivre et laisser vivre, tu sais.
Ouais.
Des insectes, il va toujours en avoir. Ils ont le droit de vivre, là. C'est sûr que le problème de monoculture, je suis d'accord avec le problème de monoculture, puis c'est le problème mondial dans le moment avec les OGM.
Ouais.
C'est qu'à un moment donné, même les abeilles sont fuckées, là. Mm-hmm. Tu sais, elles sont obligées. Il y en a plus d'abeilles, là. Aux États-Unis, ouais. Il y en a plus, là. Ils sont obligés d'en louer. Il y a des gars qui arrivent, là, puis ils amènent le kit d'abeilles, là,
ouais.
Des pommiers. Après ça, ils les mettent, ils les mettent à une autre place. Parce que là, ça marche plus. Parce qu'ils ont besoin, les abeilles, de différentes plantes pour être équilibrées. Mais moi, le problème des insectes, ça m'a jamais assommé, là, tu sais, dans le sens que je sais qu'il y a des plantes qui sont très vulnérables à certains insectes, j'appelle ça des canards. J'essaie d'éloigner dans ma vie les tweets, là, tu sais, je veux dire, je sais qu'il y a des plantes qui sont susceptibles, sont jamais contentes, c'est trop d'eau, pas assez d'eau, trop de soleil, pas assez de soleil. Je joue plus avec ça, là, tu sais, je veux dire, j'essaie de trouver les guerriers qui vont faire la job que j'ai besoin de faire. Puis dans les légumes, c'est la même chose. Puis l'hybridation, ce qui est arrivé avec l'hybridation, entre autres les nouveautés ou les nouvelles variétés de légumes qui développent de fruits en fonction de... Le seul target qu'ils ont, les gars, là, c'est la conservation.
Mm.
Tu sais, une tomate, là, c'est de développer un hybride qui va se conserver longtemps. C'est quasiment des poignées de porte.
Même
là,
si ça goûte pas
dire.
Bon. Même si ça goûte pas...
Ouais, c'est incroyable.
Il y a une tendance en Europe, c'est le slow food là, qui commence à ressortir les vieux légumes, les patrimoines, puis commence à remettre ça sur le marché. Ça, c'est intelligent. On a perdu nos senteurs, on a perdu nos goûts. Mais les insectes, pour finir, les insectes, OK, on parlait tantôt qu'il y avait pas de mauvaises herbes, qu'il y avait en fait juste des herbes qui étaient pas au bon endroit. C'est à peu près la même chose avec les insectes. Et ils ont le droit de vivre, mais c'est sûr que si t'es attaqué par les cochenilles farineuses, ça se peut que ta plante elle se fasse suer. Tu sais, je veux dire, bon, la première version de ça, c'est l'eau. C'est l'eau. C'est prendre de l'eau avec un boyau puis arroser par en dessous. Les plantes, les insectes sont toujours par en dessous. Puis c'est de comprendre le cycle d'évolution de l'insecte. C'est qu'un insecte, exemple, ça va pondre des œufs. Puis les œufs vont être l'or en fonction de la chaleur. Si il fait 30 degrés, un araignée va pondre, elle va être l'or en 3-4 jours. S'il fait 3 degrés, ça va prendre un mois, tu sais. Donc, à ce moment-là, il faut que tu sois assez logique pour dire, ben là, je te donne un coup avec le boyau, mais je sais que dans 3 jours, les œufs, là, qui sont restés là, là
ils vont
être l'or. Faut que je revienne après, là. Puis, faut pas t'es lâche. Ça, c'est la question intelligente. Mais c'est sûr que si tu veux envoyer un missile, tu sors les pesticides, Même pas sûr que tu vas gagner le combat, là. Parce que c'est plus une logique, mm-hmm. mes insectes. T'essaies de jouer dans le target. Ils aiment pas l'eau, t'es arrose, mais essayer de les éliminer, là, pis te rendre ça sceptique, ton jardin, pense-y même pas.
Ouais, exactement. On va s'arrêter ici. On va poursuivre, bien sûr, sur toute question-là. Il y a beaucoup de gens, évidemment, qui se demandent si véritablement, c'est normal d'avoir du gazon en ville, parce qu'on a donc de la misère avec les gazons. Puis c'est peut-être, finalement, illogique d'avoir des espaces comme ça. C'est une espèce de drôle de bibitte, ça, finalement, du gazon, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus naturel. On va vous donner l'occasion de participer à notre émission, si vous avez envie, 514-790-9850. Si vous avez quelques questions pour nos spécialistes, c'est le moment. Pour participer à cette mode du jardinage, il va faire bon en fin de semaine, peut-être allez-vous être tenté de jouer dans la terre. On revient tout de suite.
C'est la plus belle, c'est une rose pour Isabelle. Une rose, rose, rose.
Oh, ils sont fins.
Superbe, superbe.
Une rose pour Isabelle. Je l'avais même pas demandé, celle-là. Merci, Benoît. C'est même pas mon anniversaire. On parle d'horticulture ce matin, des nouvelles tendances en jardinage, parce que oui, il y a de plus en plus de Québécois, 1 sur 3, qui est accro au jardinage, le fait comme hobby, comme passe-temps. Je vous présente mes invités, l'horticulteur Ronald Leduc, grand spécialiste du jardin, Wayne Roland, qui est permaculteur. Plein de questions, dont celle d'Éric. Éric, allez-y, vous avez un problème de perce-oreille.
Oui, mes honneurs, mademoiselle Maréchal.
Alors, mais pas Ronald,
j'ai effectivement un gros problème avec ces bestioles-là. Il y en a d'autres que j'aime pas, mais je tolère. Mais ceux-là, ils m'écœurent particulièrement. Mm-hmm. Je déteste ça quand je suis en train de travailler dans le potager. Puis là, ça sort de partout. Ils m'écœurent. Y a-t-il moyen de se débarrasser de ceux-là?
Des perce-oreilles. Ouais. Ronald Wem, peut-être, vous?
Très honnêtement, les perce-oreilles, outre votre aversion, c'est pas des bêtes très dangereuses. Ils s'intéressent surtout à la matière morte. Donc, s'il y a des résidus dans votre jardin, ben les autres sont là pour les décomposer, pour les mettre en plus petits morceaux.
Vous voulez dire qu'ils nous rendent un service?
Ils nous rendent un service. Donc, le seul moment où est-ce qu'ils deviennent un peu plus dangereux, c'est lorsqu'il y a plus de matière morte à digérer. Là, ils peuvent s'attaquer parfois aux plantes, mais autre que l'aversion que je pense que vous sentez envers les perce-oreilles.
Fait que donc, vous dites, on les apprécie, on s'en débarrasse pas?
Exactement.
Bon, ben, Éric...
je sais que ça répond peut-être pas à votre question.
Votre chien, il est mort, mais tu sais... J'espère que non, quand même. Ronald, as-tu un truc, lui?
Écoute, Éric, si je vraiment débarrasse avec, là, c'est juste que tu comprennes où ce qui se cache, puis tu vas à la guerre, tu sais, t'es ramasse avec... Les enlèves, là,
on suit la trace, ouais.
C'est ça, parce qu'habituellement, là, comme il disait, ils travaillent dans la décomposition. Regarde dans ton jardin, les parties où ça se décompose pas mal plus vite, ils se tiennent là, où ils vont même se tenir en dessous des tapis, des fois, ils cherchent l'humidité.
C'est vrai.
Tu fais ton Columbo, puis tu y vas, puis t'es ramasses, à un moment donné, tu vas réduire la colonie, puis ils vont se reproduire moins, tu vas en avoir moins.
Mais il va toujours en avoir, probablement.
Ouais. Ben voilà. Ben merci beaucoup, Éric. On suit ça, votre dossier de perce-oreille. On va parler à René. René, vous avez un problème que bien des Montréalais ont dans leur gazon, c'est-à-dire que vous avez des vers blancs.
C'est exact.
Et là, c'est un problème, ça?
Moi, j'en ai eu à l'automne. J'ai découvert ça, puis j'avais des animaux qui venaient labourer mon gazon durant la saison. Et là, le printemps, je sais pas si c'est dû à le froid ou ils sont pas décomposés. Mm-hmm. Disons, j'ai des petites bêtes le soir qui viennent puis qui sont après travailler mon gazon, le mettre en valeur.
Ah oui. Et donc là, vous vous demandez qu'est-ce que je fais. Là. Ça, c'est le problème des gazons en ville aussi. Là-dessus, mes invités, Wen?
De mon point de vue, le gazon, c'est comme un cancer dans nos villes. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup d'eau, ça demande beaucoup, beaucoup d'attention. C'est une monoculture, évidemment, c'est une seule plante, un seul type de plante, un graminé. Ça crée des sols compactés, qui est l'environnement parfait pour les vers blancs. Hein. Donc, on crée l'environnement qui est adapté à la venue du vers blanc. Donc, le problème est relié au fait qu'on ait des gazons.
Fait que là, vous dites quoi? Plus de gazon?
Ben, l'idée peut être de laisser les animaux faire leur travail et de
regarder, d'apprécier les dégâts.
C'est ça, d'apprécier les dégâts et de faire notre possible pour remettre en place. On peut ajouter du trèfle à notre gazon qui est moins attirant pour les vers blancs. On peut aérer le gazon. Il y a des traitements qui existent, mais à ce que j'ai compris, les succès sont mitigés.
Ouais, il y a des entreprises d'ailleurs qui disent qu'ils font des traitements pour vers blancs. Est-ce que ça
naturel,
marche?
Ça semble être moyen. Mais s'ils vous offrent une garantie puis qu'ils veulent venir 15 fois sur votre jardin pour s'en occuper, ça peut toujours valoir la peine de regarder. J'ai pas eu de données très.
Est-ce qu'on peut se débarrasser de ça, Ronald?
Ben écoute, il y a une logique. T'sais, le vers blanc, c'est un hanneton. Des hannetons, il y en a toujours eu. Des hannetons américains, il y en a partout dans la nature. Ça, c'est bon. Mais le problème qu'on a, c'est ceux-là, c'est des Japonais. T'sais. Fait que les autres sont plus coriaces. Ils ont des environnements qui aiment en particulier. Exemple, ils aiment. Bon, mais ça, juste de comprendre, c'est Eric, c'est ça.
Oui, c'est René.
Bon, regardez René. Les autres, la manière qui marche, là, c'est que à la fin, c'est des gros frappes à bord qui tombent dans les moustiquaires, là, des grosses bébelles noires là, qui rentrent dedans. Là, c'est ça,
des barbeaux.
Bon, des gros barbeaux. Ouais. Là. Bon, mais les autres, à la fin du mois de juin, là, ils se reproduisent, puis la femelle, elle rentre dans la terre, puis elle plante dans la terre, puis elle pond ses œufs. Bon, mais écoute bien, toi, t'es une femelle, mais c'est beaucoup plus facile pour toi de planter dans la terre, dans un sol sablonneux avec du gazon, que de t'en aller sur un cap de roche. Tu sais, c'est moins dur, c'est dames. Mettons, tu sais. Fait que tu vas retrouver les hannetons pas mal plus souvent, là, mettons, dans des milieux, des sols très sablonneux, puis souvent en dessous des lampadaires, parce que ils aiment bien ça, le party, le genre de discothèque pour les barbeaux, là, c'est en dessous des lumières. Tu sais. Fait que c'est là que les couples se forment, c'est là que le party pogne, puis après ça, la femelle, mais elle descend, puis elle plante ça à bas. Fait que ça, moi, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus de
dans les villes.
Dans les villes, milieux sablonneux que dans les terres. Mettons, exemple, tu t'en vas, je sais pas, moi, à Saint-Hyacinthe, sur un cultivateur, dans une terre fertile, il n'y a pas de problème avec ça. Mais une affaire qu'il faut que tu te dises aussi, c'est que si ton gazon est dans un piètre état, puis il n'est pas capable de se régénérer, c'est sûr que là, à ce moment-là, tu as des parties dans ton gazon où c'est juste de la terre. Mais c'est encore plus facile d'aller pondre là, là.
Mais est-ce que les gazons, parce qu'il y en a qui m'avaient dit, à un moment donné, il faut changer ça. Est-ce que c'est vrai?
Ah oui,
à
c'est comme
donné,
un tapis.
Tu t'enlèves ça, puis tu t'en reposes un nouveau?
Non, mais quand même, là, on va démêler le gazon. Il faut comprendre que le gazon, c'est une plante qui vit dans 8 pouces de sol. Puis la majeure partie des gazons dans les milieux urbains sont plantés dans 2 pouces, puis dans le sable quasiment. Fait que en partant, il est dans le trouble. Là, le monde, ça va être un système d'irrigation, mais des pesticides, des engrais. Mais c'est des patchs. À un moment donné, le gazon, il décroche. Puis là, quand il décroche, mais les prédateurs, le pissenlit arrive, puis toutes les autres plantes qui vivent dans des milieux un petit peu plus moins fertiles, ils vont aller se parquer là. Fait que là, t'as comme des Hells avec des sœurs, là, dans le même party, t'sais. Fait que les Hells, ils vont tosser les sœurs, c'est sûr, là. Puis là, t'en as plus de gazon, là. À ce moment-là, faut que tu l'arraches, puis là, mets 8 pouces de bonne terre, puis remets de la tourbe. C'est sûr que c'est pas la plante, mettons, c'est pas une orchidée du gazon, en ce qui me concerne, mais ça a sa raison de vivre, là, tu sais, dans un milieu urbain, si tu veux courir avec un ballon, tu peux pas courir dans une plate-bande, tu sais, ça n'en prend quelque part, là. Mais il faut être conscient que c'est une éponge, c'est une plante qui demande énormément d'eau, puis c'est une éponge, c'est une plante qui demande à des racines, ça développe sur à peu près 8 pouces de profondeur, donc, puis la plante, quand elle est en stress, elle vient jaune, c'est son raisonnement, elle meurt pas, elle vient jaune. Puis
donc, des fois, quand on a trop de problèmes, vaut mieux l'arracher et en planter du neuf.
C'est comme un vieux tapis, là, tu sais.
Voilà. Bon, ben, on espère que ça a répondu à votre question, René. Merci beaucoup. On va s'arrêter ici et on poursuit après la pause. On va conclure puisqu'il nous restera très peu de temps, mais si vous avez quelques questions, 514-790-9850. Alors, nous revenons avec Pierre. Pierre, vous avez un problème de quoi exactement?
Moi, j'ai un problème. J'ai un jardin. Bonjour.
Bonjour.
Votre émission est fantastique aujourd'hui.
Merci bien.
J'ai fait un jardin l'année passée pour la première fois. J'ai mis de la terre et j'ai mis de la mousse de crevettes. Est-ce que c'est un bon mix pour partir un jardin? Puis mon autre question qui est, j'ai des prédateurs comme un chat qui prend ça comme une litière. Comment on peut éloigner ça et puis les écureuils?
Ben, c'est une bonne question pour Wen, ça.
Hein?
Pour la terre, pour la question de terre, vous avez dit de la terre, quel type de terre vous avez mis?
Ben moi j'ai pris une terre d'un magasin à grande surface là comme Walmart là, une terre des sacs de terre qui vendent comme à $1 là, mais est-ce que c'est une bonne terre à jardin?
Ouais, pas sûr. Hein?
C'est pas le meilleur matériel.
Ça serait quoi le meilleur matériel pour bien partir son jardin?
Ouais. Dans les centres de jardin, ils ont des ils font des mélanges qui sont vraiment bien adaptés ou est-ce que ils ont mis certains types d'engrais sous forme de roche, donc tout de façon très écologique.
Mais c'est vrai qu'on voit ça, là, de la terre avec de la crevette dedans. Là. Est-ce que c'est bon, ça, de l'engrais de...
c'est la solution peu coûteuse qui va donner un résultat généralement moyen. Si on veut vraiment aller loin puis construire un sol, parce que dans ce cas-là, ce que vous êtes en train de faire, c'est construire un sol.
Ouais.
Donc,
ouais.
Si vous voulez donc, construire un sol de qualité, ben moi, je proposerais plutôt d'aller d'une pépinière locale dans votre pas loin de chez vous, demander qu'est-ce que vous avez comme terre pour démarrer un jardin. Puis souvent, ils ont des très, très bonnes options. Ils vont avoir une part de compost, une part d'engrais sous forme de roche. Ils vont avoir différents éléments. Et vous pouvez y aller avec votre budget à partir de là.
Oui, mais des fois, dans les pépinières, ils vendent les mêmes affaires qu'on peut acheter n'importe où.
Oui, ils vendent
où,
des petits sacs aussi, mais en vrac, généralement, ils vont avoir de la bonne terre.
Dans la bonne terre, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un peu d'engrais, il faut qu'il y ait un peu de...
Disons qu'il faut que ça soit balancé. Ça serait un petit peu aller dans les détails pour...
Ronald?
Ben, le nerf de la guerre, c'est d'avoir un sol qui contient énormément d'humus. Donc, l'humus, c'est du compost. Bon, si t'achètes du compost de crevettes, pas sûr qu'il y a bien des crevettes dans le compost. Ouais. Là, Puis c'est ça que le trade des composts, c'est un mot qui est très, très écologique, environnemental. Fait qu'ils vont te vendre du compost de déchets d'hôpitaux de New York.
Ah, mon Dieu! OK.
Fait qu'il y a une bémol, mais il faut que tu t'enlignes si tu veux aller plus loin là-dedans, dans la culture... biologique, là, c'est vraiment eux autres qui ont toutes les recettes idéales pour ça. Puis il y a des très bons livres, il y a des Québécois là-dessus. Il y en a un à Saint-Didas, je ne me rappelle plus de son nom.
Yves Gagnon.
Là,
ah oui?
Yves, il a gratté le nanas pas mal. Fait que lui, il sait exactement qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour avoir le top pour tes légumes.
Parce que c'est de plus en plus, une autre tendance, c'est vraiment le jardin à la table. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que de plus en plus, on veut se faire des jardins pour pas juste pour que ça soit beau, puis pour pratiquer notre pouce vert, mais c'est vraiment pour s'alimenter aussi.
Il n'y a pas plus frais que la tomate cueillie au jardin, et c'est rien comparé l'incroyable saveur qu'on peut avoir lorsqu'on a cueilli frais du jardin, comparé à ce qu'on a au supermarché. Et c'est la raison principale pourquoi les gens commencent à jardiner.
Un conseil rapidement, Ronald, avant de terminer. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On se calme les nerfs, on n'attaque pas son jardin tout de suite?
Ben, c'est le temps à peu près de faire tout. Là. Les plantes, faut que tu comprennes qu'eux autres, là, ils startent. Là. Il faut pas qu'ils manquent le départ. Ils ont besoin, si la sécheresse arrive, faut que tu leur donnes de l'eau, faut pas tes écœurs trop. Là, aussitôt que les feuilles sont pleinement développées, ils ont plus d'énergie dans le sol. Donc, à ce moment-là... C'est le temps de jouer à ça, là.
Merci beaucoup à vous deux. Bon jardinage en fin de semaine à nos auditeurs. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe, Annie, Isabelle et Benoît. On se retrouve lundi dès 10h. Bye tout le monde.